cours de métaphysique par le Père Marie Dominique Philippe, 27 juin 2001 à Saint-Judas.
C'est le dernier cours de métaphysique. Il y aura encore des cours de théologie naturelle. Et l'année prochaine, on verra si Dieu prête vie, si le retour du Christ n'est pas encore là. On verra la personne, normalement. Alors, je voudrais, avec vous, voir la différence au point de vue philosophique de l'un et la personne relativement à l'analyse que nous faisons en métaphysique de ce qui est. Toute la philosophie implique le jugement d'existence. Ça, de plus en plus, je vois que c'est important. On ne commence pas par une hypothèse. On ne fait pas la philosophie des possibles. Laissons ça aux mathématiciens, nos prophètes actuels. Ce sont les matheux, ce sont des prophètes. On vit en face de ces fausses prophéties, puisqu'il faut appeler, c'est des fausses prophéties, c'est pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est les mathématiques. Les inspirations mathématiques remplacent les inspirations poétiques. Je crois que ça, c'est constant. Et la philosophie commence par l'expérience de l'homme, l'homme travaillant, l'homme artiste, l'homme raisonnable et responsable de son travail, responsable de sa vie, l'éthique. L'éthique commence toujours une expérience d'amour. On est responsable. Et l'expérience d'une coopération avec les autres. On part de ce qui est, de la réalité que nous constatons autour de nous. Et pour nous, cette réalité est constamment doublée par la conscience que j'ai de travailler, la conscience que j'ai d'être responsable, la conscience que j'ai de coopérer. Oui, le problème de la conscience s'est ajouté, c'est que je suis. Il y a ceci et je suis. Et c'est très vrai que dans le monde d'aujourd'hui, ce problème de la conscience est devenu quelquefois premier, alors qu'il est toujours second au plan philosophique. Ce n'est pas nous qui sommes le premier intérêt philosophique. Mais dans la conscience moderne, oui, il y a un renversement, ce qui est du reste très intéressant de constater ça et de le voir selon des modalités différentes. Mais sûrement qu'on doit être très attentif à ça. Je suis, ceci est et je suis. Est-ce que le « je suis » est avant « ceci est » ? Gros problème. Puis, né le problème spéculatif, c'est-à-dire contemplatif, une recherche des réalités considérées en elles-mêmes et pour elles-mêmes, le devenir, ce qui se meut et l'être. Et dans le problème de l'être, nous avons la recherche du premier dans l'ordre de l'être. La première détermination. Et il n'y a pas de premier au niveau causalité matérielle. La causalité matérielle en métaphysique, elle passe toujours comme une causalité seconde. Elle n'est pas première. Mais elle est première constamment autour de nous dans des philosophies contemporaines. Dans le marxisme, la causalité matérielle est passée première. La causalité matérielle est étudiée dans le devenir, dans l'être, et l'être considéré en tant qu'être, le toon éon, cette grande intuition d'Aristote. La causalité matérielle s'efface. C'est très important de constater ça. Il n'y a pas de premier dans l'ordre de la causalité matérielle au plan de l'être en tant qu'être. Mais au plan du devenir, la matière est première. C'est très important, cette première constatation philosophique, métaphysique, à laquelle on doit tout le temps revenir. Hein. Faites attention, nous sommes dans un climat marxiste, parce que le marxiste n'est pas terminé. Nous sommes dans un climat marxiste où la causalité matérielle tend toujours à être première. Dans votre vie pratique, la causalité matérielle prend une très grande importance. C'est évident. Dans votre cellule, s'il n'y avait pas de lit, vous vous en apercevriez tout de suite. Avant de dormir. Donc, très curieux, là, ce qui est avant le « je suis ». C'est ce qu'il y a de bien dans cette constatation du devenir, où la cause matérielle s'impose à nous comme première, et pas le « je suis ». On pourrait vous répondre, mais ça n'a pas d'importance qu'il n'y a pas de lit. Je suis. Et vous direz, non, pas du tout. Je suis un vivant, et un vivant qui a besoin de se reposer pour pouvoir être capable d'être pleinement vivant. Vous voyez, condition sine qua non, causalité matérielle, pour pouvoir être parfaitement vivant, ça s'impose. Nous sommes dans un monde matériel et très, très marxisé, beaucoup plus qu'on le pense. Nous n'avons pas été marxisés politiquement à un moment plaigné, mais les marxistes se rattrapent dans un socialisme matériel, matérialiste, dans un socialisme laïque. C'est très curieux cela, parce qu'au fond, en tant que chrétiens, nous savons que le démon est pour la cause matérielle. C'est le premier adepte de la cause matérielle. Dans la cause matérielle, il espère encore avoir la victoire. Et il espère surtout que les hommes soient saisis, séduits par la cause matérielle, et alors là, il en fait ce qu'il veut. On sait ça. Et c'est très important de le voir, d'avoir l'œil là-dessus, puisque la philosophie doit nous permettre de vivre, hein, de vivre intelligemment, et de ne pas se laisser prendre bêtement, comme les animaux qu'on mène à la boucherie. On doit être intelligent et on doit comprendre ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui. On fait la philosophie pour ça, être un peu lucide, pas se laisser seulement mener dans tous les pays. Hein, parce que je dis, cela est vrai partout. Aujourd'hui, c'est mondial. Hein, et cette causalité matérielle, partout, essaie d'être la première. De façon très curieuse. Il y a un œcuménisme matériel. Ça, c'est très visible. Alors, au point de vue philosophique, en métaphysique, on fait une recherche de la cause formelle. Il y a un premier dans l'ordre de la causalité formelle. C'est la première détermination dans l'ordre de l'être. Et nous découvrons la substance. Il a fallu du temps. Aristote n'est pas le premier philosophe. Il y a déjà, avant lui, de nombreux philosophes. Et le livre Alphod d'Aristote, à ce point de vue-là, est très intéressant. Parce qu'on voit très bien le regard philosophique qu'il fait sur tous ses devanciers. Nous devrions faire la même chose pour notre philosophie européenne. Ce serait intéressant de répéter ce livre d'Aristote pour notre philosophie contemporaine. Voir ce que chacun de ces philosophes atteint. Est-ce qu'il dépasse la cause matérielle ? Alors, l'idéalisme désire dépasser la matière. C'est ce qu'il y a de grand dans l'idéalisme. Mais un idéalisme qui se transforme en idéologie arrive à mettre la matière idéologiquement première. C'est le marxisme. C'est pas la matière de l'artisan, le marxisme. C'est une matière idéalisée. C'est très cru comme phénomène. Il a fallu du temps pour idéaliser la matière. Parce que c'est un chef-d'œuvre d'idéaliser la matière. Et c'est vrai, c'est un chef-d'œuvre d'arriver à faire qu'on a une espèce d'idéologie de la matière. Alors que la matière refuse d'idéologie. La matière, elle est accaparante. Elle s'oppose à l'idéologie. Et non, on est arrivé à idéologiser la matière. Il faut se demander pourquoi et comment. Ce sera un problème très intéressant, ça. Très souvent, c'est le point de vue religieux qui piété, ce qui a obtenu cela. Il fallait une énergie anti-religieuse. Je crois que s'il n'y a pas ce point de vue anti-religieux, on n'arriverait pas à une idéologie de la matière. Ce serait très intéressant à bien voir cela. Je crois que idéologiser la matière ne peut se faire qu'avec un levier très puissant, très fondamental, qui serait anti-religieux, anti-Dieu. La haine à l'égard de Dieu peut arriver à faire de la matière son Dieu. Ce qui est au fond quelque chose d'affolant. Faire de la matière son Dieu, c'est ça, idéologiser la matière. On fait de la matière son Dieu. L'avantage, c'est qu'il a la forme qu'on désire. Parce qu'il n'a pas de forme comme matière. Donc il a la forme qu'on désire. Et c'est un Dieu qui en réalité, est notre Dieu avant d'être Dieu. Parce que notre Dieu, ça peut être Dieu qui vient vers nous. Ou ça peut être nous qui nous faisons Dieu. Et dans l'idéologie de la matière, il y a cela. Nous essayons en métaphysique de comprendre que la matière est laissée et de côté, qu'elle est dépassée et c'est la substance qui est première. La seconde recherche, c'est le point de vue de la finalité. Quel est ce en vue de quoi l'être est? Ce en vue de quoi l'être est? L'être est en vue de l'être, mais de l'être en acte. Il y a une espèce de causalité finale intrinsèque à l'être, respectant la transcendance. Et cette causalité finale, si elle est vraiment découverte, me conduira à découvrir celui qui est premier. Dans l'idéologie de la matière, on découvre le premier dans la matière. Dans la recherche métaphysique de ce qu'il y a de premier dans l'être, au point de vue finalité, on découvre l'être en acte. Et l'être en acte me conduit à poser un être premier qui est Dieu, au-delà de toute matière. La métaphysique est la science la plus simple, puisqu'elle laisse tomber la cause matérielle, la cause efficiente. Ce que la cause matérielle est par rapport à la cause formelle, la cause efficiente l'est par rapport à la cause finale. Il y a une espèce d'analogie très curieuse. Oui. On peut, je crois, et c'est intéressant à faire, voir que la matière dispose à la forme. Elle n'est pas la forme, jamais. Mais Ce qu'il y a de grand dans la matière, c'est de disposer à la forme. Ce qu'il y a de grand à l'efficience, c'est de disposer à la finalité. La matière n'est pas la forme, l'efficience, la cause effective, n'est pas la finalité. Très facilement, je m'arrête à la matière et j'idéalise la matière. Très facilement, je m'arrête à l'efficacité et j'idéalise l'efficacité. Il y a deux idéalisations fausses, celle de la matière et celle de l'efficacité. Et ces deux idéalisées, ces deux idéalisations s'affrontent. Et souvent se donnent la main. C'est très curieux. C'est très curieux. Et on le verrait parfaitement en essayant d'étudier les diverses philosophies européennes. L'idéalisation de la matière et l'idéalisation de l'efficience, très facilement, cèdent, s'empoignent, coopèrent. Alors que il devrait comprendre qu'en réalité, ils s'affrontent terriblement. Mais très facilement, il y a une espèce de complicité. Ramener la forme à la matière, ramener la finalité à l'efficience. Il y a une sorte de complicité analogue qui fait que l'idéalisation de la matière et l'idéalisation de l'efficience se tiennent ensemble. Je ne mets pas de nom, mais c'est facile à comprendre, ça. Facile à comprendre. C'est intéressant à comprendre et à essayer de comprendre. Parce que je crois que la structure de la recherche des quatre causes, c'est au fond la structure très profonde de mon intelligence qui veut être intelligente tout en dépendant de l'expérience, tout en dépendant de la sensation. Parce qu'il y a constamment une révolte de l'intelligence qui ne veut pas dépendre de l'expérience, de la sensation, et qui veut être elle-même. Platon en est le type le plus parfait, ça. Mais il n'y a pas que Platon, hein. Parménide est comme ça. L'intelligence répugne. L'intelligence, elle répugne d'être dépendante de l'expérience matérielle. Elle a beaucoup de peine. Ça lui semble constamment de faire une complicité qui n'est pas bonne, qui l'appauvrit. Alors qu'en réalité, l'intelligence ne s'appauvrit pas par l'expérience, elle s'enrichit parce qu'elle est indépendante. Et cette intelligence qui dépend des sens, qui dépend des expériences, c'est l'intelligence aristotélicienne, c'est l'intelligence thomiste, c'est l'intelligence telle que saint Thomas l'a compris. Séparé d'Avicenne, c'est pour être plus une intelligence dépendante des sens. Et ça, c'est l'expérience quotidienne. Nous faisons cette expérience tout le temps. Nous sentons qu'il faut dépasser l'expérience, mais nous sentons que nous avons besoin de l'expérience. et qu'on ne peut pas dépasser l'expérience n'importe comment. Il y a une structure de l'intelligence qui est très importante à saisir. La structure de mon intelligence, c'est la recherche des premiers, des indivisibles, des causalités. La recherche des causalités. Bien. À ce point de vue-là, une première dépendance à laquelle quelquefois on se rébelle, la découverte de la causalité. Est-ce que nous avons le droit de supprimer la recherche de la causalité? C'est un très gros problème et qui est actuel. Est-ce que nous avons le droit de supprimer la causalité? Ne cherchons plus la causalité. Ça, c'est une histoire du Moyen-Âge. Ça a été dit. Donc, on doit être alerté de cela. Est-ce que la causalité fait partie de notre nature, de ce que nous sommes? Est-ce que mon intelligence peut rayer la recherche de la causalité et vouloir tout saisir en profondeur sans la causalité? C'est le grand problème d'aujourd'hui, puisque c'est la tentation de suivre Hegel, de suivre le néoplatonisme. Et c'est la participation qui prend tout. Oui. Le problème redevient très à l'ordre du jour avec Hegel. Il faut le saisir. Il faut comprendre que mon intelligence liée aux sensations, liée au sens, est une intelligence qui nécessairement, pour se développer, c'est-à-dire pour découvrir son origine originale, pour découvrir ce qu'elle est comme intelligence, elle découvre la recherche des causes. Peut-elle se dispenser de la recherche des causes? Il faut relever le défi. Vous n'êtes peut-être jamais posé le problème, mais posez-le. Parce que si vous ne le posez pas maintenant, vous le poserez dans 10 ans. Et vous n'aurez plus le temps d'y réfléchir. Et vous direz, soyons à la mode. Soyons ce que tout le monde fait. Pourquoi rester attaché à la recherche des causes? C'est quand même stupide, rechercher à la recherche des causes. On se sépare de tout ce qu'il y a d'intéressant chez les modernes. C'est très séduisant, les modernes. C'est très séduisant, la psychologie. C'est très séduisant, tout ce que les sciences me disent. Et la participation suffit. Pas besoin de causalité. Pourquoi la recherche des causes? Pourquoi dites-vous que la structure de l'intelligence aristotélicienne, la recherche des causes matérielles, formelles, efficientes, finales, et la structure de l'intelligence? Vous devriez dire cette recherche des causes et la structure de l'intelligence au Moyen-Âge. Mais depuis le Moyen-Âge, on a fait beaucoup de progrès. L'électricité. L'avion. On a fait des progrès intenses. On vit dans en progrès. Et c'est vrai. J'utilise ce progrès qui provient de la science et qui est bon. Pourquoi pas l'utiliser complètement, me jeter entièrement à ce point, et être un homme moderne et pas un homme du Moyen-Âge. C'est déjà assez d'être un homme du Moyen-Âge avec mon habit religieux. C'est suffisant d'être un homme du Moyen-Âge avec l'habit religieux. Bon, à la rigueur, bon, je veux bien que la religion ait une tradition. Bon, il y a une tradition. Alors au Moyen-Âge, il portait l'habit pour distinguer, c'est mieux. C'est peut-être mieux. On dit peut-être, après tout. Mais pas pour l'intelligence, quand même. Mon intelligence a fait de tels progrès depuis le Moyen-Âge. Mon intelligence mathématique a fait de tels progrès. Et mon intelligence mathématique a inventé une nouvelle philosophie. Et cette nouvelle philosophie, c'est la phénoménologie. Et elle provient vraiment des mathématiques. Elle est enracinée dans les mathématiques. Alors, au moins, cette philosophie-là est moderne. Et elle me permet d'être complètement dans la modernité. Vous voyez le problème, hein ? Alors, s'il ne s'oppose pas ici, parce que vous êtes au noviciat de la pensée, c'est parce qu'il y a la docilité du novice qui gobe tout. Ça vient de l'autorité. Il prend tout. Quand vous vous réveillerez, homme moderne, ayant quelques piou-piou à côté de vous, ben c'est idiot. C'est idiot de rester vraiment un homme complètement à côté de la modernité. Si vous êtes chrétien, si la foi surnagée et la foi du novice a continué d'être la foi du novice, parce que dans la foi, on est novice jusqu'à la vision béatifique. Et vous acceptez d'être novice jusqu'à la vision béatifique. En faisant profession perpétuelle, vous proclamez d'être fidèle, novice, jusqu'à la vision béatifique. À la vision béatifique, vous aurez le droit d'être moderne. Là, il n'y a pas de danger. C'est la seule modernité que nous acceptons. L'homme nouveau. C'est l'homme moderne. Parfaitement moderne. Là, il n'y a pas de danger d'être en retard. Il n'y a rien après la vision béatifique. Mais jusqu'à la vision béatifique, on est du côté de la foi des novices. Bon, alors, si vous avez compris ça, vous aurez un repère. Le langage du pape. Qui, pour nous, spécialement, a donné foi et raison. L'encyclique. Et qui vous montre que seule une intelligence de l'être peut découvrir l'existence de Dieu et être au service de votre foi. Alors, la grosse tentation que vous aurez sera dépassée. grâce à cette encyclique. Je dirais, c'est vrai. Je dois être novice jusqu'à la vision béatifique. Et pour que ma foi puisse s'emparer de tout mon être, il faut que mon intelligence accepte ce qui en elle est original, au-dessus de tous les compromis. Tous les compromis, je les envoie promener, ce sont des compromis. Et qui m'empêchent de découvrir l'originalité de mon intelligence qui est faite pour ce qui est faite pour tendre vers Dieu. Ça, c'est si vous êtes croyant et si vous restez novice croyant. Alors, vous pourrez avoir ce recours. Mais vous êtes novice croyant, parce qu'autrement, vous direz, oui, ça, c'était le pape était comme ça. On avait le pape Jean-Paul II, oui, il était merveilleux, mais il croyait un petit peu trop au Moyen-Âge. Il était d'accord que saint Thomas était un très grand théologien, peut-être le meilleur des théologiens, un saint théologien. Il n'y a pas beaucoup de saints qui sont théologiens. La tentation, au point de vue de l'intelligence, est très forte. Comprendre que la découverte d'Aristote, ce n'est pas du tout la découverte de son temps. La preuve, c'est qu'Aristote n'a pas eu de successeur. Il est unique. Saint Thomas n'a pas eu de successeur. Il est unique. Pourquoi ça ? Parce que de son temps, il n'était pas de son temps. Israël, tous ses prophètes. Ah, c'est vieux. Et l'humanité, tous ses philosophes. Ceux qui découvrent quelque chose de radical, de très profond. L'originalité de l'intelligence. Quand vous découvrez l'originalité de l'intelligence, ce n'est pas une intelligence aristotélicienne, ce n'est pas une intelligence thomiste, c'est l'intelligence que Aristote a découvert, que saint Thomas a découvert, et que vous découvrez. Ça, c'est le propre de notre intelligence, qui est capable de se découvrir dans ce qu'elle a de fondamental et de premier. Qu'est-ce qui est fondamental dans l'intelligence ? Qu'est-ce qui est premier dans l'intelligence ? Jugement d'existence. Ceci est. Et quand vous découvrez ceci est, vous pouvez alors poser la question: qu'est-ce qui est premier? D'où ça dépend? Seule la philosophie de l'être découvre la causalité. Et seule la causalité me permet de découvrir le premier, Dieu, le Créateur. Je ne peux pas découvrir le Créateur par la participation. Je ne peux pas découvrir ce qu'il y a de premier par la participation. Parce que la participation, c'est la partie du tout. Et je suis intégré dans le tout. Et c'est moi-même intégré dans le tout. Et je ne suis pas intégré dans la création. Ah, j'avais jamais compris ça. je ne suis pas intégré dans la... puisque c'est ex nihilo, à partir de rien. Ben, vous êtes quelque chose quand même. C'est le rien qui est intégré dans la création. À partir de rien. Dieu est le néant. Et Dieu est le néant me fait créer mon âme. Je ne suis pas intégré dans la création. Je la reçois. Je la reçois. J'ai tout reçu de Dieu dans mon âme. Et donc, découvrir l'originalité de mon intelligence, c'est découvrir le doigt de Dieu créateur sur moi. C'est découvrir la marque du créateur, la signature du créateur sur moi. Je suis. Il est. C'est une philosophie de l'être qui découvre l'originalité profonde de ce qu'est mon intelligence. Et elle découvre à ce moment-là la nécessité de la causalité, la création. Et dans la lumière de la création, je découvre toutes les causalités. C'est vieux, les philosophies qui veulent supprimer la causalité. Il y en a une maintenant, Hegel. Elle est gros, elle est forte, mais mal branchée. Elle avait déjà dit ça. Des pieux, des gens très pieux disent ça. Très pieux. Ils sont maladroits, mais ils sont très pieux. On peut être très pieux et être maladroit. Parce que la piété sert à tout, mais n'éclaire pas tout. Parce qu'il y a des gens qui sont très pieux, c'est bien. Ils se précipitent dans une église, ils vont tout de suite auprès de saint Antoine, le Seigneur, dans le tabernacle, ça n'a pas d'importance, non. C'est le petit cierge à saint Antoine qui est important. C'est beaucoup plus important que de saluer Jésus. C'est lui qui a toutes les clés du paradis. Parce que... C'est vrai, la piété est quelquefois très obscurante. Elle est obscure. Vous voyez, la nécessité de découvrir mon intelligence. Alors, je découvre l'être, je découvre au sommet de l'être, l'être intelligent. Et je découvre la propriété de l'être, l'un. Et je découvre l'être intelligent qui est un. Et je découvre que cet être intelligent qui est un, il est capable de se former lui-même. Il est un fondamentalement dans son être, mais dans sa vie, il se forme librement et il se forme comme une personne. Alors voyez ce passage de l'être à la vie. L'un est à l'être ce que la personne est à la vie. L'un est propriété de l'être et la personne montre ce qu'il y a de plus parfait dans le développement de ma personne, d'être spirituel. Dans l'ordre de la vie, je suis libre et je me forme comme une personne. Oui, alors, au sens strict, comprenez bien, c'est ça le point de vue très délicat, c'est que la personne, c'est au niveau de la vie, Mais je ne comprends la vie parfaitement que dans la lumière de l'être. Et donc, dans la lumière de l'être un, je découvre la personne. Et c'est pour ça que je dis que c'est une étude métaphysique à propos de l'être, à propos de la vie, de ma vie spirituelle, de ma vie humaine. Le développement de ma vie humaine doit toujours respecter l'unité. Autrement, c'est anarchique. Je suis peut-être très intelligent, mais mon pauvre cœur restait le cœur d'un petit enfant. Ça va pas. Je peux être très affectif, pas d'intelligence. Non, il faut que les deux se développent en harmonie. Et cette harmonie continue d'exister au niveau moral, au niveau artistique. Je dois essayer de découvrir cette harmonie et cette exigence d'unité de l'être au plus intime de ma vie spirituelle, de ma vie d'homme et d'une vie spirituelle. Le phénomène de la personne est un phénomène humain. C'est le grand phénomène humain. Je suis responsable en face de Dieu, en face des hommes, et c'est suffisant de devenir une personne. Et je verrai que c'est non seulement en face des hommes, mais même en face de Dieu. En face de Dieu, je suis responsable de mon attitude. Dieu me fait confiance jusque-là. Il me laisse libre de me développer contre lui ou avec lui. C'est fou, cette confiance de Dieu. Est-ce que nous avons la même confiance, nous ? Dès qu'on voit que quelqu'un n'est pas tout à fait avec nous, on l'éjecte. Alors que on devrait être comme Dieu. Il fait luire son soleil sur les bons et sur les méchants. C'est formidable que Dieu me laisse me former contre lui. Je dirais, Seigneur, mais nous écraser tout de suite. Ce petit embryon de Judas, écraser ce petit embryon de Judas, il a montré qu'il était déjà un petit peu un embryon de Judas, il faut vite l'exclure. Non, ils grandissent. Vous savez bien, il y a une parabole du bon grain et de l'ivraie. Vous laissez pousser parallèlement à vous l'ivraie. Votre jumeau, parallèlement à vous, livré. Et vous le coupez quand il a poussé. C'est formidable, ça. Ce que Dieu fait pour nous laisser la liberté. Dieu nous conduit comme un père. Et les pères du bon et du mauvais. Et là, l'attitude de bonté à l'égard du bon et du mauvais. Le mauvais le laisse libre. Il lui donne toutes les occasions pour comprendre qu'il existe et qu'il est bon. Mais il n'agit pas directement pour le supprimer, alors qu'il pourrait. Il le laisse. Vous voyez, le problème de la personne et le développement de la personne au plan philosophique est un problème qui montre le sens de la liberté. Je suis libre de devenir une personne. C'est le chef-d'œuvre de Dieu et de moi. La personne. C'est Dieu qui m'a formé avec moi. Ou plus exactement, moi avec Dieu. C'est quelque chose de formidable. Et je l'étudie au plan philosophique, au plan de l'être. Là, vous voyez, le problème d'Olin, c'est un problème métaphysique, directement par rapport à l'être. Or, l'être, je ne peux que le contempler. La personne, je la fais. Elle m'est donnée radicalement, c'est sûr. Elle m'est donnée radicalement, mais ce capital qui m'est donné radicalement, je le développe. Je développe mon intelligence, je développe ma volonté, je développe ce capital que Dieu m'a donné. Donc vous voyez bien le problème de l'un et le problème de la personne. Et je le vois dans la lumière métaphysique. Parce que ce développement de ma personne ne peut se faire parfaitement qu'avec une intelligence originelle, l'intelligence de l'être, pour découvrir Dieu. Et le développement de ma personne se fait tout à fait d'une façon nouvelle lorsqu'elle se fait en face de Dieu ou qu'elle rejette Dieu. Alors là, c'est la propriété de l'être. La personne, c'est le fruit originaire d'un être spirituel qui est source de vie, par lui-même, par son âme.